L'imposture, troisième partie, chapitre premier. À ce moment, l'auteur de la vie de Tauler quittait la Bibliothèque nationale et descendait la rue de Richelieu sous un soleil oblique dans une poussière dorée. La ville, écrasée tout le jour par un brouillard impitoyable, aussi brûlant que l'haleine d'un four, se détendait ainsi qu'un animal fabuleux, grondait plus doucement, tâtait l'ombre avec un désir anxieux, une méfiance secrète, car les villes appellent et redoutent la nuit leurs complices. Cependant, l'abbé Sénabre marchait de son grand pas égal, aussi indifférent à cette sérénité grossière qu'il l'eût été sans doute au désordre éclatant de l'après-midi ou à la déchirante et pure haleine de l'aube, égaré parmi les pierres, pareil à un oiseau blessé. Car depuis longtemps, la pensée de l'abbé Sénabre était sans issue vers le dehors, et il en épuisait la malfaisance avec une admirable cruauté. 6 mois plus tôt, dès son retour d'Allemagne, où il s'était enfui, la première angoisse vaincue, il était entré sans débat, ainsi que de plein pied, dans une paix profonde. Du moins, il l'avait ainsi nommée, car elle lui donnait l'illusion du calme absolu qui suit l'orage, d'une définitive immobilité. Des forces obscures, dont il osait à peine supputer la puissance et le nombre, après s'être affronté dans un chaos effrayant où il avait senti sombrer son âme, s'était non pas seulement apaisé, mais confondu, semblait avoir contracté entre elles une monstrueuse alliance. Ainsi que la pauvre humanité dresse sa tente misérable entre des collines autrefois jaillies du sol, dans un cataclysme inouï et gratte pour manger la pellicule refroidie d'un astre où mugit toujours l'abîme souterrain, il s'était installé comme au centre même de ses propres contradictions. Il y vivait seul et sauvage, loin des hommes, loin de son redoutable passé, devenu maintenant plus mystérieux, plus redoutable que l'avenir, ce passé auquel il avait échappé par miracle et qu'il entendait encore gronder au-delà de son refuge, ainsi qu'une bête réclame sa proie. Et néanmoins, la rupture semblait consommée. De telles ruptures ne sont pas si rares, mais elles sont généralement le fait de circonstances particulières, imprévues, d'une révolte des sens, ou de l'orgueil, ou de la raison, qui emporte d'un coup toute résistance et laisse après elle une déception si douloureuse que la volonté en reste affaiblie à jamais, garde en secret, comme un principe de mort, le regret de cette part de soi-même arrachée. Alors le doute insidieux renaît plus tenace qu'avant, car il prospère dans le milieu le plus favorable, en pleine décomposition. Peu d'hommes, en une telle conjoncture, évitent le double piège d'une tendresse équivoque et nostalgique pour ceux qu'ils ont reniés, ou d'une haine stérile qui n'est qu'une autre forme de leur remords et les dégrade entièrement. Nul n'est dupe de leur violence, tous les voient mendier, l'écume à la bouche, le pain qu'ils viennent de jeter, dont ils gardent une faim éternelle. Qu'importe si dans leur orgueil ils se flattent d'être affranchis, désormais uniques, solitaires. Ils ont, au contraire, un immense besoin des autres. Ils ne sont que dépossédés. Mais l'abbé Sénabre avait fait au désordre sa part, ainsi qu'un chef qui recule en bon ordre et ne se laisse pas aborder. Les sens étaient intacts, inaccessibles, son orgueil, qu'aucune déception grave n'avait jusqu'alors entamé. Même la crise d'angoisse qui avait marqué la dernière étape de sa lente et presque méthodique séparation d'entre les hommes, il en était à la considérer comme un accident sans doute décisif, mais négligeable en lui-même, superflu. La honte qu'il en avait d'abord ressentie avait été vite regardée en face, abolie. Il évitait mêmement, avec une extraordinaire prudence, de tirer vanité, comme tant d'autres, d'un débat tragique, et il eût été bien certainement incapable d'y trouver matière à littérature. Par instinct, par un mouvement de sa nature la plus profonde, ainsi qu'une espèce est une autre espèce, il détestait Renan, ou plus exactement, le méprisait. Ce détail peut surprendre. Il est révélateur. À quiconque ne recherche de ce mépris la raison secrète, l'abbé Sénabre restera sûrement toujours étranger. Les contradictions de Renan, sa sensibilité femelle, sa coquetterie, son égoïsme sournois, ces brusques attendrissements, tout dénonce une âme qui se dérobe par une volontaire dissipation. Ce dérobement perpétuel rend témoignage à Dieu, à peu près comme les détours de l'animal poursuivi révèlent la présence d'un chasseur qu'on ne voit point. La vie de l'abbé Sénabre est, au contraire, une des rares et peut-être le seul exemple d'un refus absolu. Pour donner idée d'une âme ainsi désertée, rendue stérile, il faut penser à l'enfer, où le désespoir même est étal, où l'océan sans rivage n'a ni flux ni reflux. Et certes, on ne peut croire que cet homme étrange fût né sous le signe d'une si effroyable malédiction. Quelque part que sa jeunesse est faite au mensonge, une heure est venue entre toutes les heures où l'indifférence s'est muée en renoncement volontaire, délibéré, lucide. Mais on ne connaît pas cette heure. Il ne la connaissait pas non plus. Avec les symptômes les plus douloureux de son mal, avait disparu, en apparence au moins, la colère qu'il avait un moment si puissamment exercée. Elle dormait. Sa conscience, d'ailleurs, ne formulait aucun reproche, et il ne sentait toujours aucun remords. La blessure s'était refermée dès qu'il avait osé se regarder en face, se définir une fois pour toutes. Il ne croyait plus. Il avait totalement perdu la foi. Sa grande adresse, car la ruse chez lui n'est pas inégale à la force, avait été de résister à la tentation de retarder indéfiniment l'opération nécessaire en ne rejetant pas tout à fait des symboles préalablement vidés de toute substance. Il avait rompu le contact et de telle manière que le retour fut impossible, ne se put même pas concevoir. Le sens métaphysique, a-t-il avoué un jour, est chez moi comme aboli. Et ce n'était pas assez dire. Un petit nombre de ceux qui lui ressemblent ont su s'arracher aux douceurs d'un spiritualisme nuancé pour atteindre au rivage plus amer de l'agnosticisme. Là encore, à leur insu, ils vivent au milieu de visages familiers. L'abbé Sénabre pensait avoir réussi le coup d'audace de se vider en une fois, non seulement de toute croyance, mais de tout espoir. À la limite de son effort, il n'y a plus rien. Cette pensée l'exaltait. Il l'éprouvait sans cesse, ainsi qu'on retourne mille fois dans sa mémoire un souvenir délicieux, ignoré de tous. Cette âme que son vieux crime avait depuis longtemps vouée à la solitude, enfin s'y donnait, s'y perdait sans retour. « Entre le néant et moi, se disait-il, il n'y a que cette vie hésitante qu'un souffle peut abolir, la rupture d'un petit vaisseau. » Et il se sentait aussitôt le cœur cerné d'un trait de flamme. Le néant est accepté le plus souvent comme l'unique hypothèse possible après la ruine de toutes les autres, possible parce que par définition invérifiable, hors de portée de la raison. On l'accepte avec désespoir, avec dégoût. Mais lui, il donnait vraiment au néant sa foi, sa force, sa vie. Il le voulait tel, ne voulait que lui. Dans ce choix extraordinaire, dans cette préférence surhumaine, il ne distinguait point la part d'une rancune accumulée par des années et des années de contraintes. Une telle découverte l'eût profondément humilié. Il se croyait sûr, au contraire, d'avoir agi sans violence, accepté virilement l'inévitable, et il mettait son honneur à ne se reconnaître aucune dette envers qui que ce fût, soit de haine, soit d'amour. Néanmoins, il se savait coupable d'une faiblesse, la seule, demeurée incompréhensible, l'appel à l'abbé Chevance. Désormais unique possesseur de lui-même, tirant de lui sa peine ou sa joie, dans une parfaite solitude, ce souvenir lui était insupportable. Tel un avare qui ne jouit plus de son trésor parce qu'on lui en a dérobé une parcelle, et dissipe sa rare et précieuse volupté à désirer ce qu'il n'a plus, M. Sénabre ne se consolait pas d'avoir laissé prendre par mégarde quelque chose de sa vie. Une brèche restait ouverte. Un certain pressentiment l'agaçait. À cette inquiétude près, il se sentait sûr de lui, n'ayant jamais rien livré au hasard, ni commis aucune autre imprudence. À son retour d'Allemagne, afin de s'accorder quelques jours de réflexion, il avait consigné sa porte et fait dire qu'il était malade. Mais alors même, les rares intimes qui l'approchèrent n'eurent certainement pas de soupçons. Dès ce moment, d'ailleurs, sa décision était prise. Il avait résolu de ne pas changer l'ordonnance extérieure de sa vie, de vivre et de mourir en prêtre. Il peut sans doute paraître étrange qu'après avoir longtemps mordu son frein, l'occasion ne lui parut pas bonne de se libérer entièrement. Mais c'était de lui seul, c'était de lui-même qu'il avait prétendu se libérer, c'était devant lui-même qu'il prétendait ne plus rougir. Ayant consommé sa révolte, une dissimulation nécessaire, bien loin de diminuer la liberté reconquise, la lui rendait plus sensible par un contraste matériel. On l'eut certes bien étonné en lui faisant connaître que la décision qu'il avait prise serait la cause de plusieurs événements tragiques que sa sagesse ne pouvait prévoir, dont son bon sens eût même écarté l'hypothèse. Il ne voyait pas le péril de cette dissimulation, il n'en sentait pas non plus la honte, depuis qu'il était en règle avec son orgueil. Au contraire, il s'acquittait de toutes les obligations de son état dans un vain zèle, mais ponctuellement, avec une dignité accrue, un sérieux, une tristesse même qui eût dérouté les plus perspicaces. Ainsi célébrait-il chaque matin le sacrifice de la messe à la chapelle des sœurs de Marie, et le vieux sacristain qui l'assistait depuis tant d'années ne l'avait jamais vu si recueilli. Le 5e tome des Mystiques Florentins venait de paraître, et rien ne distinguait ce livre de ceux qui l'avaient précédé. Sinon peut-être une méthode de critique plus prudente, une plus scrupuleuse objectivité. Un certain persiflage dans la discussion des points contestés, une veine comique un peu sombre, les impatiences et les insolences ne s'y retrouvaient pas. L'imprimatur avait été accordée dans le délai le plus court, et il avait néanmoins reçu, comme d'habitude, les félicitations d'un grand nombre de jeunes prêtres qu'enthousiasmait sa réputation de hardiesse et ce qu'ils appelaient dans un jargon naïf et aussi par un détour habile sa modernité. Le vrai est qu'il avait écrit les derniers chapitres en grande hâte, pressé seulement d'en finir. Son goût de la controverse avait disparu comme par enchantement avec les derniers scrupules de sa conscience. Il formait le projet de s'en tenir désormais à son rôle d'historien, d'utiliser ses fiches. Il attendait. Il attendait, mais non pas comme on pourrait croire, l'un de ces événements imprévus qui rétablissent tout à coup l'équilibre d'une vie bouleversée, mettent d'accord les apparences et la réalité, consacrent un mensonge. Non, il n'attendait rien de tel. Sa fierté était grande, au contraire, d'avoir réussi à renouer avec les habitudes anciennes, sans rien briser de leur réseau délicat, de s'y retrouver tellement à l'aise, alors que tant d'autres auraient sans doute cédé au désir aveugle de tout rompre autour d'eux, de se venger ainsi de leurs angoisses après les avoir surmontées. Au contraire, son destin était désormais fixé et le cours de sa vie tracé jusqu'à la mort, qu'il ne souhaitait ni ne redoutait, car il en portait singulièrement l'image en lui-même. Elle était déjà sa certitude et son repos. Ce qu'il attendait ne se définit pas aisément, ou du moins il était bien loin d'imaginer que l'entreprise était à peine commencée, que d'ailleurs elle était probablement de celles qui n'ont ni commencement ni fin. La découverte de la solitude où il était tombé l'avait d'abord enivré, rempli de confiance, de force, de mépris. C'en était assez de rompre si parfaitement avec le reste des hommes, de ne vivre que pour lui et par lui, et il avait cru de bonne foi n'épuiser jamais une si âpre et si rare volupté. Mais voilà que déjà il devait la rechercher, l'éprouver sans cesse, et il ne tirait plus d'elle qu'une joie avare, lente à venir. Il commençait à sentir que le mépris ne se suffit pas à lui-même, qu'il doit se retremper, se renouveler dans un sentiment plus absolu, mais lequel? De ce sentiment, il n'était pas loin de deviner la nature, bien qu'il usât de ruses misérables pour ne pas prononcer son nom, car il sentait que le nouveau monstre, né en lui, ne voulait qu'être vu et caressé une fois pour croître affreusement et rester seul dans l'âme détruite comme un chancre se moule parfaitement sur le membre qui la dissout et en perpétue la forme hideuse. Sans doute il n'eût pas été capable encore de rendre clairement compte des craintes vagues, des pressentiments, de toutes ces choses aveugles et rampantes au fond de sa conscience, et il croyait simplement n'avoir qu'un dernier effort à faire pour se délivrer entièrement. Soit qu'il l'eût ainsi voulu, soit qu'il fût plus simplement arrivé au terme d'une lente mais incroyable dégradation, sa vie tout entière avait pris son appui sur l'orgueil, et il se flattait de lui avoir trouvé là une forte et sûre assise. Étrange erreur d'un homme qui ne savait point encore que l'orgueil n'a rien en propre, n'est que le nom donné à l'âme qui se dévore elle-même. Lorsque cette dégoûtante perversion de l'amour a donné son fruit, elle porte désormais un autre nom, plus riche de sens, substantiel, la haine. Comme un amant s'avise tout à coup, avec épouvante, au creux même de ce qu'il appelle son extase, que le corps qu'il presse n'a plus rien à lui livrer de précieux, qu'il est vide et déjà délaissé, ainsi l'abbé Sénabre sentait parfois, et pour un instant, la précarité de son triomphe, l'inanité de sa possession. À de tels moments, le calme où il était tombé ne le rassurait pas assez, l'étonnait plutôt. Se regardant vivre, si pareil à ce qu'il était jadis, prêtre ponctuel, travailleur exact, visitant les mêmes amis, tenant sur toutes choses les mêmes propos, il sentait non pas le remords, mais la méfiance, et qu'une dissimulation si facile pouvait cacher un piège, n'était peut-être qu'une trêve. Il eût désiré ne pas avoir réussi d'emblée, apprendre avec peine et application son nouveau rôle, se faire violence, au lieu qu'il s'y trouva d'abord à l'aise, et semblait n'avoir jamais connu rien d'autre. Ce bizarre scrupule n'était d'ailleurs généralement qu'une forme d'inquiétude vague, mais parfois aussi il jaillissait à la surface de la conscience, il se sentait atteint à l'un des points vifs de l'être. C'était par exemple à l'une de ces messes matinales qu'il célébrait d'ordinaire, avec une indifférence absolue, attentif seulement aux gestes, aux paroles qu'il articulait soigneusement, même à voix basse, comme soucieux de ne pas s'abaisser à une ruse inutile, d'en donner aux auditeurs pour leur argent. Après avoir hésité quelques jours, il prononçait à présent la formule de la consécration, non pas, à ce qu'il pensait du moins, par goût secret du sacrilège, mais parce qu'il lui semblait indigne de lui de duper, même par une inoffensive omission, la vieille femme qui, un instant plus tard, viendrait s'agenouiller à la sainte table. Et soudain, ce point de souffrance aiguë l'arrêtait net, le clouait sur place pour une longue minute, parfois dans l'attitude la plus incommode, les bras levés présentant l'hostie à la croix, ou la main dressée pour bénir. Il sortait alors de lui comme on sort d'un songe, se regardait faire, non pas avec terreur, mais seulement une immense curiosité. Curiosité impossible à définir, d'une nuance si pathétique à la fois et si délicate, qu'on désespère d'en donner une analyse qui ne la trahisse point. Rien qui ressemblât moins à quelque repentir, même informe, à un mouvement de la grâce, ou simplement à la crainte. Bien au contraire, il lui semblait alors que ce qui pouvait subsister en lui de douloureux ou de sensible se refermait brusquement, et, dans la suspension d'une extraordinaire attente, il se sentait pétrifié. Attente est certes ici le mot qui convient, pourvu qu'on lui donne un sens absolu. À la fois acteur et témoin de ce phénomène étrange, il attendait quelque chose, il ne savait quoi, quelque chose qui allait peut-être naître de son orgueil exalté jusqu'au paroxysme, crispé ainsi qu'un muscle à la limite de son effort. Ainsi le prêtre révolté, face à son Dieu trahi, le regard fixe, attendait une nouvelle et imminente révélation, mais venue de lui-même, et non pas de cette figure de bronze, froide et muette, ou de petits disques blancs si frêles, à travers lequel il voyait danser la flamme des cierges. Quelle révélation ! Pourquoi détestait-il à ce moment le calme inouï, l'indifférence lucide dont il était ordinairement si fier ? Pourquoi s'emportait-il contre sa volonté ? Et que désirait-il, enfin ? Quiconque eût alors observé attentivement son visage eût sans doute répondu. Ces crises singulières, chaque fois plus violentes, étaient aussi chaque fois plus brusques et plus courtes. Si brusques et si courtes que la voix du prêtre, surpris parfois au milieu de la récitation d'un verset, accusait à peine un fléchissement. Et il les oubliait aussitôt, n'y pensait plus, jouissant inconsciemment de l'accablement qui les suivait, d'une bienheureuse fatigue dont tremblaient ses genoux sous la soutane. Et il regardait aussi sans comprendre la sueur ruisseler sur ses mains. Le sacristain qui, la messe dite, repliait l'aube avant de la glisser dans un tiroir, s'étonnait de la trouver trempée de sueur. En traversant le carrousel, il s'assit un instant sur l'un des bancs de pierre sculptés dans l'épaisseur même du mur, puis, gêné par les passants, se remit en route presque aussitôt, mais plus lentement. Depuis 6 semaines, il rassemblait des fiches, prenait des notes, travaillait péniblement, dressant chapitre par chapitre, avec sa minutie habituelle, le plan de son livre. La besogne lui apparaissait à présent fastidieuse, et il ne s'y accrochait plus qu'avec dégoût, après en avoir espéré des mois de labeur paisible et un succès tranquille, si différent des anciens triomphes, empoisonnés par la crainte d'un scandale, les discussions théologiques et les censures. Et voilà qu'il découvrait que cette crainte avait été une part de sa vie, une part de sa joie. Bien plus, la nécessité de ruser sans cesse, de calculer soigneusement ses chances, d'attaquer de biais, de rompre à temps une polémique où l'on va être entraîné à se découvrir, dangereusement, les malices à la fois du chasseur et du chassé, tout cela lui avait été aussi cher que la gloire, et il le désirait de nouveau âprement. Et il avait en même temps la certitude que cela était détruit à jamais et qu'il l'avait anéanti de ses propres mains. Il avait encore pressé le pas, il courait presque le long du quai désert, il sentait monter le délire. Sa douloureuse impatience était celle d'un homme qui a longtemps cherché, presque à son insu, le chiffre ou le mot oublié, et qui s'aperçoit en même temps qu'il va surgir du fond de sa mémoire, et que de ce chiffre ou de ce mot dépend sa vie. Une foule d'idées, en nombre immense, se pressait, s'affrontait dans un désordre prodigieux, et il croyait savoir, il savait maintenant, que sitôt répondu à la question qu'il venait de poser, cette confusion cesserait comme par enchantement. Presque à la même seconde, une telle agitation lui fit honte, et par un de ces retours dont il était seul capable, et où il se dépensait avec une violence étrange, il s'arrêta, se contraignit à rester un long moment immobile, les bras croisés sur le parapet, de l'air tranquille d'un passant qui regarde couler l'eau boueuse un soir d'été. Et pour tenter d'avoir raison de ce monstrueux rêve en l'amenant de force d'une zone obscure à une zone claire de la conscience, il essaya de l'exprimer en paroles intelligibles. Il se mit à s'interroger et à répondre tour à tour, à voix basse, ainsi qu'il eût discuté avec un ami. « C'est bien simple. J'abandonne décidément mon livre, je renonce à cette histoire, et pour commencer, je brûle mes notes ce soir. »«
À quoi bon? Tu es bête. »
Évidemment, les sujets ne manquent pas, qui me sollicitaient encore il y a un mois. Je n'aurais que l'embarras de choisir. Et pourquoi suis-je bête? Pourquoi n'aurais-je plus le cœur à l'ouvrage? Je ne crois plus. Soit, il est vrai, je ne crois plus. Je ne crois plus à rien. Je ne crois plus à rien. Je ne crois plus à rien. Je ne... Il se surprit, répétant machinalement la phrase stupide, combien de fois, et à 10 pas de lui, un vieil homme, la tête penchée sur l'épaule, le regardait avec tristesse et s'éloigna aussitôt en rougissant. Il cacha son visage dans ses mains, s'efforça de reprendre la discussion au point où il l'avait laissée, se faisant 1000 reproches à voix basse, puis s'encourageant par des exclamations puériles, des « voyons, voyons !», retrouvant au fond de sa mémoire les ruses du bon écolier qui cherche à fixer son attention sur un texte difficile. Ah, que ne se vit-il alors tel quel dans la profondeur de sa chute.
Voyons, voyons, serrons la question de près, ne restons pas en l'air. N'ai-je pas écrit tant de livres avec joie?
Oui, 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 voilà donc un point acquis. Et pourquoi me suis-je cru forcé d'abandonner ces sujets, une matière si riche, inépuisable? Voilà, attention, ceci est un autre point délicat. Voyons, à l'apprendre en elle-même, ou plutôt objectivement, à l'étudier du dehors avec un désintéressement absolu, la sainteté, par exemple. «
Non, non, 1000 fois non » s'écria-t-il cette fois à voix haute et en frappant du poing sur la terre.
« Il faut prendre parti. Je dois prendre parti. » D'un regard furtif jeté à droite et à gauche, il s'assura que personne ne l'avait entendu. Jusqu'au pont neuf, le quai était désert. La sirène d'un remorqueur gémit doucement, puis haussa son cri funèbre, et la dernière note déchirante, en retombant, donna le signal du crépuscule. Il fit un geste d'impuissance et s'éveilla. Le ciel était pur et tout proche, cerné de l'Orient à l'Occident par une buée couleur de soufre. Les immenses platanes de la rive balançaient mollement leurs branches. Toutes à la fois, face au couchant, 1000 fenêtres allumèrent un fanal rouge et qui sombra presque aussitôt. Alors seulement le vent fraîchit. Sa montre marquait 10 heures,
et il la remit brusquement dans sa poche, comme on supprime un témoin gênant. Déjà le débat qui venait de prendre fin, où il s'était engagé avec tant d'angoisse, n'était plus qu'un souvenir confus, s'effaçait comme un rêve, et il n'avait nettement conscience que du temps perdu. Bien qu'il en eût été ainsi, d'ailleurs, à chacune des crises précédentes, aucune d'elles ne l'avait encore si cruellement exercée, ni menée si avant à travers son dedans ténébreux. Et jamais non plus elle ne l'avait laissé si âprement tourmenter de colère et si déçu. Il traversa le pont des Arts, s'engagea dans la rue Bonaparte, prit à droite une rue déserte, puis une autre, et une autre encore. Son mauvais rêve était tout à fait dissipé, ne l'occupait plus. Il sentait seulement le besoin d'user par la fatigue, l'agitation douloureuse dont il ne pouvait se rendre maître, et il choisissait au passage, pour sa promenade sans but, d'instinct, les ruelles plus étroites et plus noires. La dernière déboucha sur le boulevard Saint-Germain, déjà désert. Presque en même temps, il heurta de l'épaule un vieux pauvre, debout dans l'encoignure d'une porte, et sans doute endormi. La surprise le tint immobile un moment, puis il dit « Que voulez-vous ?» avec colère et d'un tel accent qu'il eut honte. Mais l'autre, dès longtemps rompu sans doute à ce genre d'escrime, répondit avec l'admirable à propos des mendiants, sans se troubler, « C'est le bon Dieu qui vous envoie, monsieur le curé. Ave Maria, Dominus !» Il plongea sa main dans un trou de sa veste et sortit un papier sordide. « Voilà mon certificat, et je vais vous dire. J'avais un certificat du commissaire, avec mon billet de sortie de l'hôpital épinglé dessus. Ah, malheur! Ah, nom de Dieu, de nom de Dieu! Mais je les ai perdus, monsieur le curé, voilà ma veine, preuve que je suis un honnête homme. Il y a de la chance que pour la canaille et le parasite, c'est mon idée. » Il replongea mollement sa main dans un autre trou, la retira vide, et dit avec amertume et résignation, « Ça va, je ne demande plus que 10 sous. » L'abbé Sénabre vit les petits yeux gris luire entre 2 bourrelets de crasse, et son cœur se tordit de dégoût. Mais à sa grande surprise, il répondit comme malgré lui, sur un ton de douceur étrange, « Avez-vous faim ?»« Si j'ai faim, j'ai toujours faim. Cette naissance, ne me demandez pas si j'ai faim. Un malheur, si j'ai faim !» Il prit, levant le bras et dépliant sa main noire, le ciel à témoin d'une telle candeur, jouant l'amertume à merveille, et toute sa vieille face éblouie d'une immense rigolade intérieure. « Un curé de croquant, se dit-il, il y a du bon. »« Je voudrais faire quelque chose pour vous, » reprit doucement l'abbé Sénabre. « Donnez 10 sous ou 10 francs, à quoi bon? Vous n'en serez pas plus riche. Il faut que nous trouvions mieux, mon ami. » Le regard du pauvre diable n'exprima plus aussitôt qu'une méfiance infinie. « Je dois travailler, » essaya-t-il d'expliquer mollement. « Seulement, je devrais d'abord me requinquer. Faible comme un enfant, monsieur le curé. Plus de force, rasé. » J'aime mieux crever. » Il glissa de nouveau dans la coignure et y disparut. L'abbé Sénabre ne voyait plus que le bas du visage éclairé en dessous, et la mâchoire inférieure, si maigre, claquait de déception et de colère. L'illustre historien fit le geste de désappointement d'un terrier qui rate sa proie. Une petite seconde encore, il hésita, honteux de lui, impuissant à se dégager, cédant peu à peu à un entraînement irrésistible. De jour en jour, et presque à son insu, ses soudains fléchissements lui devenaient plus familiers, moins douloureux, inquiétaient moins sa raison. Il était fait à leur rythme singulier, toujours le même. Le premier choc, impossible à prévoir, ni à parer, de telles pensées tout à coup surgies, en apparence inoffensives, mais qui ne quittaient plus le champ de la conscience, refusaient de passer, arrêtaient net le déroulement des idées et des images, ainsi qu'un corps étranger bloque un rouage délicat. Puis l'extrême attention de tout l'être, son absorption, comme d'un homme qui fixe stupidement l'angle d'un mur et n'ose en détacher les yeux avant d'avoir retrouvé le mot perdu. Et enfin la délivrance, dans un accès de rage, une détente sauvage de l'âme humiliée. « Petits accidents sans importance, se disait-il à lui-même, dès que le calme était revenu. » Car la simplicité, la régularité de sa tâche quotidienne, sa monotonie, voulue, délibérée, entretenait en lui l'illusion que ces désordres n'étaient que le reliquat des derniers symptômes d'un mal déjà ancien. Mais ils étaient sa vie même, poursuivant son cours, implacable, cherchant sa voie et son issue, ainsi qu'une eau sous la terre. La méditation commençait dans l'angoisse, puis brusquement interrompue, chassée des hautes régions de l'âme, mais non vaincue, se continuait dans les ténèbres et repassait tout à coup, comme si tout autre détour interdit, refoulée dans les profondeurs du sensible, elle eût sournoisement tracé sa route à même la chair douloureuse, suivi les réseaux mystérieux de la moelle et des nerfs pour prendre la volonté par surprise et forcer enfin la conscience. Cette fois encore, le même entêtement stupide le tint un moment face au misérable dont il ne voyait pas les yeux, comme s'il eût attendu de lui quelque réponse décisive. Le vieil homme, inquiet de ce silence, s'étira doucement dans sa cachette, ramena ses mains contre ses cuisses, au fond de ses poches, et retint son haleine. « Le frère est tapé !» se dit-il, philosophe. Mais l'abbé Sénèbre était si près de lui qu'il entendit battre son cœur. Alors il allongea soudain la main, tâta la manche de drap raidie de crasse, referma les doigts, et sans effort, sans brusquerie, d'un geste au contraire lent et mesuré, il tira le bonhomme hors de sa cachette et le regarda de nouveau, plus curieusement. Le vieux corps ne pesait pas plus qu'un sac de plumes au bout de son bras tendu, et il sentait la peau glisser librement sur les os. Le regard, maintenant visible, à la fois narquois et terrifié, demandait humblement grâce, étrangement naïf et même enfantin. En même temps, les jambes esquissèrent un mouvement comique de défense impuissante, comme si elles eussent voulu prendre aussi leur part d'une excellente plaisanterie. « Pousse, je ne joue plus !» dit le cadavre, avec un affreux rire. Le visage immobile de l'abbé Sénèbre s'empourpra. Il n'eût su dire si c'était de honte, de déception ou de colère. Mais la déception l'emportait sans doute. Il s'était surpris lui-même, dans cette espèce de frénésie à demi lucide, où ses paroles, ses gestes, ses intentions même avaient un sens double, comme ces textes, dont la banalité apparente cache une signification plus haute et secrète, connue des seuls initiés. Toujours son bref délire se dissipait ainsi trop tôt, frôlant l'absurde sans y entrer, ne laissant après lui qu'un souvenir vague, confus, impossible à interpréter. Cette fois encore, la raison, un temps défaillante et comme prise au dépourvu, s'efforçait de renouer la chaîne, construisait son hypothèse rassurante, ainsi qu'une araignée tisse sa toile autour d'une proie suspecte. Que ce mendiant eût troublé sa méditation, qu'il eût cédé à un mouvement d'impatience ou même d'involontaire cruauté, quoi de plus naturel, de plus explicable? Ces sortes de distractions ne sont point rares, et tous les rêveurs les connaissent bien. Ainsi parlait une voix intérieure, mais qu'il sentait pourtant étrangère, qu'il méprisait en l'écoutant, dont il connaissait trop l'accent insincère. Il ne la croyait pas. Il ne feignait même pas d'y croire. Le courage lui manquait encore de reformer le pauvre mensonge qu'une autre expérience jetterait sans doute bientôt à bas. Que voulait-il de ce grotesque? Qu'attendait-il de lui? Il n'en avait certes aucune idée. Il ne savait rien, sinon qu'il avait tiré de l'ombre ce vieux pantin, comme s'il eût voulu arracher de son misérable cœur l'angoisse vivante dont il se sentait mourir, et qu'il le contemplait maintenant du même regard avide qu'il eût regardé sa propre conscience. Et comme sa propre conscience, il eût voulu aussi le jeter hors de lui, revenir dessus, le piétiner, l'anéantir. Toute cette scène ne dura pas le temps d'un clin d'œil. Il desserra les doigts. « Malheur !» dit le cadavre. « On fait pas mieux. Cré Dieu ! Quelle poigne !» Il soufflait par le nez un petit rire craintif, livrant humblement son regard d'affreux enfant quinquagénaire, ses prunelles pâles, dont l'abbé Sénèbre ne put supporter l'appel. Il tourna le dos et s'éloigna lentement, assez lentement pour se laisser rejoindre, car il entendait derrière lui, d'abord hésitant, puis résolu, le pas de son ténébreux compagnon. Et soudain, il vit à ses pieds, sur l'asphalte du trottoir, danser cocassement une ombre. « Pas de blague, et mes 10 sous ?» demanda l'ombre d'une voix qui s'efforçait d'être brave. « 10 sous seulement, monsieur le curé, et je mets les voiles. 10 sous pour le vieux gosse qui comprend la rigolade. Et je vous plaque après, craignez rien, je fais suisse. » « Suivez-moi, au contraire, » dit l'abbé Sénèbre. « Je n'avais pas l'intention de vous renvoyer sans un secours. Nous conviendrons peut-être en marchant de quelques moyens de vous être utiles. Je suis attendu moi-même, mon ami. » Il parlait avec douceur, et même il sourit au visage inquiet, levé vers lui. La rue où ils s'enfonçaient descendait de pied vers la Seine, et ils n'y rencontrèrent qu'un sergent de ville somnolent, dont la vue remplit d'amertume le vieux pitre, qui, tout soufflant et boitillant, car il tirait la jambe, en était déjà aux confidences, expliquait son caractère, alignant des mensonges énormes, à la fois subtils et ingénus, scandés de « Vous êtes un type à comprendre, je vais vous dire encore une chose, avec vous, pas besoin de boniment, etc. » Il déplorait sur toute chose que sa famille lui eût fait cette injustice de lui donner le nom d'Ambroise, cause de ses malheurs. Un sale nom, monsieur le curé, un nom de salaud, qui fait rigoler, un nom de cocu. Pas moyen d'être seulement respecté avec un nom pareil. À l'école, il m'appelait Framboise, et l'instituteur ne pouvait pas m'encaisser, rapport aussi que je suis devenu orphelin. Au chantier, c'était le même tabac. Allez au hall, vous ne pourriez pas l'ouvrir sur moi sans faire tordre tous les copains. Mon père était un bon ouvrier, mais il manquait de jugement. Ma mère avait de l'intelligence, mais pas de conduite. Elle s'étant sauvée un jour avec un chef de garde qui, pour se débarrasser d'elle, l'a fait donner par les mœurs. Une belle vache. Il avait peine à suivre, car l'abbé Sénabre allongeait le pas sans répondre, ni même tourner la tête. Je crois lui en fourrer plein la vue, mais c'est plutôt lui qui me fait poser, pensait douloureusement le pauvre bougre, essayant courageusement d'échauffer sa sciatique sans geindre. Sale gueule de raie ! Mais il n'aurait pour rien au monde lâché prise, avant d'avoir le cœur net, sans doute par un obscur souci du travail bien fait, une sorte de conscience professionnelle, léguée à sa misère par les ancêtres inconnus, les tenaces paysans bosserons, ces croquants qu'il croyait mépriser, un pantruchard affranchi.